Bonjour, c'est Marie-Ange, j'habite en Haute-Savoie. Je vous félicite pour votre émission d'aujourd'hui qui est super cool comme d'hab. Je profite de cet espace de parole pour vous parler d'une asso qu'on vient de lancer ici en Haute-Savoie suite à l'abattage d'un troupeau à cause de la brucellose. On avait créé un collectif qui se transforme aujourd'hui en association qui s'appelle Sauvons l'élevage de plein air, qui est tout à fait dans le thème de l'émission puisque c'est pour réconcilier le vivant, protéger le vivant, les éleveurs, les animaux d'élevage, la nature, enfin tout ça, quoi, le vivant dans sa globalité. Donc si vous voulez adhérer à notre association, Sauvons l'élevage de plein air, sur Internet, vous trouvez tous les renseignements et il y a aussi un espace sur Facebook. Merci, à bientôt.
Bonjour, je m'appelle Odile, je vous téléphone de Loumois, un petit village dans les Deux-Sèvres. Et à 5 minutes de chez moi, il y a un autre village qui s'appelle La Pérate. Et j'ai appris qu'ils ont un élevage de gibier qui va s'agrandir et passer de 37 000 à 95 200 animaux. Je vous cite l'article de La Nouvelle République pour que vous voyez leurs conditions d'élevage. La cage d'un couple reproducteur de perdrix mesure 1 mètre sur 50 cm avec 50 cm de hauteur. Les faisans, ils sont par 10 dans une cage qui mesure 1 mètre sur 1 mètre avec 50 cm de hauteur. Les faisans, ils restent un an avant d'être lâchés pour des chasseurs. Et pour les perdrix, la moitié restera 2 ans dans ces cages avant de partir pour la chasse. Et voilà, c'est les meilleures pondeuses qui ont la chance de rester 2 ans. Les autres partent, j'imagine, plus tôt. Donc voilà, c'est à rapprocher de l'argument des chasseurs qui parlent de régulation des animaux en sachant qu'un animal sur 4 à la chasse vient d'un élevage. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Maud, j'appelle d'Anglette et je voulais vous recommander le spectacle Climax par la compagnie Zygomatique qui dénonce le changement climatique. À voir de toute urgence, c'est très drôle et ils sont au Festival d'Avignon. Un très 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 bon moment. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Déborah de Saint-Mandé. Je réagis un petit peu à tous les râleurs. Bien sûr que ça m'agace, moi, quand j'entends la viande label rouge, etc., quand on sait l'abus des viandes rouges, ce que ça fait à l'organisme, c'est terrible. Et puis, tout le coup de toutes ces choses-là. Mais on n'y peut rien, on est un monde en pleine contradiction. Oui, tout ça, ça m'agace, mais il faut vivre et puis il faut pas trop râler. C'est pas bon, il faut positiver, parce que sinon, ça va devenir comme le répondeur de Daniel Mermet. Hein. C'est pas positif, les râleurs. Allez, au revoir.
Merci pour vos appels. On va essayer de pas trop râler et pensez surtout à nous laisser vos messages pendant le week-end pour une diffusion dès lundi sur l'antenne. Le répondeur de la Terre au carré, vous connaissez bien le numéro maintenant. C'est le 01 56 40 45 45. Escale à Lille en ce vendredi 13 mai, à la veille de l'ouverture de la 6e édition d'Utopia, ce rendez-vous culturel proposé par Lille 3000 en partenariat avec France Inter. Face à l'impératif écologique, les artistes du monde entier sont de plus en plus nombreux à s'engager pour éveiller les consciences et susciter une réflexion sur la sauvegarde de la nature. Jusqu'au 2 octobre prochain, l'art et la science dialoguent donc ensemble dans de nombreux lieux de la métropole lilloise afin de tisser des liens entre les humains et le vivant à l'heure du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. C'est ce que nous allons vous faire découvrir avec Camille Cronier qui se trouve, elle, à la gare Saint-Sauveur. Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Je suis à 2 km de vous.
On va donc passer 7 heures. Ouais. On va passer donc 7 heures dans différents lieux pour partir à la rencontre des artistes et de leurs œuvres.
Oui, dans un univers ici autour de moi déroutant, pour ne pas dire un peu chelou, hein, installé dans la gare Saint-Sauveur, donc ancienne gare de marchandises. Déroutant parce qu'il y a autour de moi, par exemple, un squelette dont le crâne est plein de puces électroniques, un chien post-humain ou encore le film d'un homme en train de se taper une fougère. Oui, c'est du porno végétal. Ici, on renverse la hiérarchie des espèces. L'exposition s'appelle Nova Scène, une nouvelle ère où tout le monde est vit un petit peu bien ensemble, et cela grâce à la technologie, donc autant vous dire, ça laisse pas vraiment indifférent.
Nous sommes donc en direct de Lille jusqu'à 15h pour Utopia. Cette émission est réalisée par Valérie Ayestaraï et Théo Raison. Elle a été préparée par Paulin Gruel et Anna Massardier. Benoît Gégou est notre chargé de production. Andréa Jaffré, Nicolas Mathias, Thomas Robin et Adèle Calglar sont à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Et pour démarrer cette émission, nous sommes dans le hall de la gare Lille-Flandre, car c'est un petit peu ici que tout commence pour ce rendez-vous Utopia. Si vous arrivez par le train, et vous ne pourrez pas manquer Simone, une installation gigantesque, tentaculaire, organique, qui accueille les voyageurs et qui s'étend tout au long de la gare. Et c'est vous qui en êtes la créatrice, Joana Vasconcelos. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir sous votre œuvre. Donc ici, dans ce hall de gare, vous vivez, vous travaillez à Lisbonne, vous êtes sculptrice et artiste multimédia. Alors, qui est Simone, s'il vous plaît? Faites-nous les présentations.
Alors, Simone, c'est une valkyrie qui est un être organique, soit une fleur, soit un animal, on ne sait pas. Mais en fait, elle est inspirée dans la mythologie norvégienne des déesses qui survolent le champ de bataille et rendre vivant aux braves guerriers pour travailler pour les dieux à Valhalla.
Ouais.
Cette valkyrie, elle est faite en hommage à Simone de Beauvoir, Simone Signoret, Simone Veil et Simone de CNCF, qui est la voix de tous les grandes gares de train en France.
Ouais, c'est Simone Hérault, hein, qu'on entend dans tous les messages de la SNCF. Donc, ce sont des femmes puissantes, hein, pour rendre hommage à Léa Salamé, qui apportent justement de la force.
Exactement, ce sont des femmes qui changent la vie, changent le quotidien et qui influencent la culture française.
Ouais, alors cette Simone, elle a été initialement produite pour le Bon Marché en 2019 à Paris et ensuite vous l'avez étendue finalement pour Utopia ici à Lille, hein, c'est ça?
Oui, pour qu'elle aille une configuration qui intègre l'architecture de la gare, la structure en fer.
Alors, il faut vraiment regarder dans les détails parce que, évidemment, quand on arrive vite avec sa valise, on ne prend pas tout le temps de regarder, mais quand on observe exactement les matières que vous utilisez pour Simone, elle fait combien de mètres de long, exactement?
Elle fait environ 30-40 mètres.
Ouais, ce sont des matières textiles, des tissus, du crochet en laine, de la passementerie. Tout ça est fait à la main?
De la dentelle, tout ça, c'était cousu à la main, brodé à la main. Et le crochet a été fait à la main par mon équipe à Lisbonne de 15 couturières et brodeuses, une grosse équipe que j'ai à Lisbonne.
Ouais. Donc c'est une structure gonflable ensuite que vous posez dessus?
Ce sont des gonflables et après les gonflables, ils sont recouverts des tissus, de la dentelle, de la broderie, toutes les matières du domestique.
Vous avez d'autres installations ici à Lille?
J'ai une grosse exposition à Folie Oisem, où on a le Jardin d'Éden. Et où on a des pièces qui parlent du luxe de l'eau, de la sustainabilité de l'eau dans la planète.
Merci beaucoup, Joana Vasconcelos. Donc, on va s'imprégner de Simone pour démarrer notre balade lilloise ici. Et félicitations pour cette œuvre extrêmement impressionnante et que tous les passagers qui vont arriver ici ne manqueront pas, évidemment. Merci beaucoup à vous.
Merci.
À tout de suite. Camille Crony, on vous retrouve à la gare Saint-Sauveur pendant que je vais me rendre au Tripostal où d'autres artistes nous attendent.
Oui, et je suis en train d'entrer dans... Vous allez entendre l'ambiance sonore. Bonjour. Où suis-je? Bonjour. Fabien Léostic, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes artiste et ingénieur. Vous êtes en quatrième année de thèse dans le programme doctoral Sciences, Arts, Création, Recherche. Alors là, on est où?
On est dans un laboratoire. Le laboratoire qui sert aussi d'élément scénographique à un film qui a été tourné grâce à Lille 3000 et à l'exposition, dans lequel nous allons vous présenter l'ensemble du projet.
C'est quoi toutes ces pipettes? Alors Mathieu, il y a des pipettes, des tubes à essai partout. J'en ai quelques-unes. À quoi ça sert, Fabien?
Alors ici, tout le matériel est un matériel qui va pouvoir être utilisé par le public, encadré de médiateurs, pour pouvoir précipiter leur ADN et former ce que l'on appelle des méduses ADN.
Oula, qu'est-ce que c'est? Précipiter l'ADN et méduses ADN?
Alors, la méduse ADN, c'est donc en fait un agglomérat du matériel génétique dont je me suis servi pour créer une nouvelle pratique du portrait.
Portrait, donc on va parler photo, c'est ça votre projet, ça s'appelle Sève élémentaire, l'ADN c'est au centre de tout le projet, et donc vous allez quelque part m'apprendre à faire des selfies d'un nouveau genre, je peux le dire comme ça, autoportrait de mon ADN?
On pourrait dire ça, voir des selfies sculpturaux.
Ça ressemble à quoi?
À des météorites.
À des météorites? Tout mon ADN fait. Ressemble à un météorite?
Exactement.
Oh, et ben, si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière tout ça, on y revient dans quelques minutes, Mathieu?
Absolument, on a hâte de voir ça, Camille. Nous, on va vers le Tripostal et on se retrouve juste après. Franz Ferdinand avec Curieux sur France Inter.
future, revealing the day. Are we the future? I'm curious, curious. Will you want me? Will you want me here when you got me? Are you gonna love me? Tell me, I'm a future seeker. Keep seeking a free guy. Wanna know now, gotta know now. And now I know that no, I shouldn't be so curious. But I think I'm curious. Will you love me now? Will you love me then? Will you love me when you see? You see the man within. Will you love the man within? Will you want me when you got me? Are you gonna love me? Tell me. Yes, I'm a future seeker. I'm a bit sick and sick. I wanna know, you know, you got me curious. Curious, you got me curious.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Et nous sommes en direct de Lille cet après-midi pour l'événement Utopia et on vous retrouve Camille Crenier à la gare Saint-Sauveur.
Avec Fabien Léostic, artiste et ingénieur, hein, il n'y a pas plus l'un que l'autre, cela dit si peut-être un petit peu plus artiste,
plus
Fabien.
Artiste, oui.
Son projet, ça s'appelle Sève élémentaire, c'est l'aboutissement, vous me dites si je me trompe, mais de 3 ans de recherche sur la représentation des espèces, parce qu'on vient quand même au cœur du sujet. Vous voulez remettre tout simplement en cause la hiérarchie des espèces via l'ADN, qu'est-ce que ça veut dire?
Tout à fait, déjà c'est pas vraiment la... c'est une étape importante du projet, mais le projet se finira quand même en 2023 lors d'une exposition justement aussi au 104 et qui vient clôturer aussi ma recherche, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et alors, comment on remet la hiérarchie des espèces via l'ADN ?
Eh bien, en fait, ici, moi, ce qui m'a poussé dans ce projet, c'est revenir à la... me lancer, en tout cas, dans une espèce d'enquête à la recherche de nos origines minérales. Donc c'est grâce à ça que j'espère pouvoir aussi un petit peu déclassifier justement cet arbre phylogénétique que l'on connaît et qui met chacune des espèces bien les unes à côté des autres. Et pour ça, l'ADN est un matériau parfait pour moi pour travailler, puisque c'est le point commun, c'est le lien qui relie toutes les espèces du vivant entre eux.
C'est-à-dire que c'est le dénominateur commun, l'ADN, il y en a dans les animaux humains, dans les animaux non humains et
exactement,
dans le végétal.
Dans tout ce qui est, on trouve de l'ADN et de l'ARN dans tout ce qui est organique, mais faut savoir que ces macromolécules, elles sont aussi constituées d'acides aminés, donc qui sont l'adénine,
Là, vous tournez la tête, puisque c'est...
Exactement,
ils sont représentés sur les murs qui nous entourent.
C'est marqué partout sur les murs. Voilà, les murs du laboratoire sont recouverts de dessins qui sont, en fait, les esquisses de l'ensemble du projet, les plans du dispositif de la machine, parce que cet ADN, une fois précipité sous forme de méduse ADN, tout simplement parce que ça en a aussi la forme de cette méduse.
Ouais, ça ressemble à une méduse.
Exactement.
Une sorte de nuage méduse.
Une sorte de nuage méduse qui flotte comme ça dans un alcool à 90 degrés. Et là, moi, au sein du projet, j'ai développé un scanner photogrammétrique qui permet de récupérer la forme de cette méduse ADN. Et le but, c'est d'exploiter cette forme d'un point de vue sculptural pour la transformer en météorite.
Et c'est d'ailleurs votre propre ADN qui vous a donné cette idée de projet.
Exactement. Le projet est né lors d'une résidence Arts et Sciences à Besançon, au sein de l'université de Besançon. Pendant cette résidence Arts et Sciences, j'ai pu avoir l'occasion de collaborer avec des scientifiques qui travaillent eux-mêmes sur l'ADN.
Et donc vous vous êtes dit, tiens, ça vous a donné l'idée, vous avez vu votre précipité d'ADN.
Tout à fait, j'ai commencé par travailler avec mon ADN pour ensuite d'abord développer une première pratique de l'autoportrait. C'était plus mon visage que je prenais en photo, mais c'était finalement le support de l'information qu'il contenait, pour ensuite maintenant ouvrir l'ensemble du projet aux autres espèces et aux autres humains et non humains.
Pourquoi vous voulez tant remettre en question cette classification des espèces ? Est-ce qu'il peut pas y avoir un risque de désordre total pour le coup ?
C'est Baptiste Morisot justement que vous avez reçu dans votre émission il y a quelques temps qui parle aussi beaucoup de crise de la sensibilité. Ça, c'est quelque chose avec lequel je suis totalement en accord. Et donc le but, c'est de proposer au travers d'une œuvre, au travers de ce projet-là, une possibilité de pouvoir venir recréer d'autres liens peut-être plus égalitaires avec d'autres espèces et voire même avec les matériaux et les matières qui nous entourent pour peut-être essayer de sortir en tout cas de cet anthropocentrisme et pourquoi pas de cette logique extractiviste dans laquelle nous sommes tous plongés aujourd'hui.
C'est en ça qu'on pourrait dire que votre projet artistique est écologique ?
On pourrait dire ça, oui, effectivement. En tout cas, le terme est évidemment à remettre lui-même en question. En tout cas, il pose des questions qui sont évidemment contemporaines et heureusement de plus en plus d'actualité.
Alors Fabien Léostic, devant nous, donc je le disais, il y a des tubes à essai, et qu'est-ce qu'il y a là dans les bocaux
Tout à fait. Alors dans les bocaux qui n'ont pas d'étiquette, en fait, il y a des produits qui sont extrêmement simples.
Là,
on a du savon. Ici, on a du produit à lentilles. Et par là, on a de l'alcool à brûler.
Et du sel.
Et du sel, voilà.
Tout ça, c'est pour pouvoir précipiter son ADN.
Effectivement, voilà. Et lors de l'exposition, il y a des ateliers qui vont être organisés, qui sont organisés avec les médiateurs pour proposer justement aux visiteurs de venir extraire leur ADN, de l'associer, pourquoi pas, aux autres personnes à celui des autres personnes du groupe, voire même à celui d'une autre espèce, pour créer la méduse ADN d'une chimère dont on pourra en extraire les volumes, une photographie, un paysage.
Donc une chimère de groupe plutôt que d'individu.
Exactement, sortir de cette logique de l'individu, considérer plus en termes d'espèce, considérer le tout du vivant sans forcément le but du projet, en tout cas la finalité du projet en 2023 sera d'extraire ces volumes et de les uploader sur un environnement numérique immersif qui permettra de créer une nouvelle cartographie du vivant, nous mettant tous sur un pied d'égalité.
Bon, allez, Mathieu, je vais essayer de faire ma propre chimère en associant Nicolas à la technique,
oui,
et Colin qui me tient l'horloge. Pendant que je fais ça, je vous laisse la parole. Vous êtes donc à la gare de Lille-Flandre, vous.
Alors, on est au Tripostal maintenant, Camille, juste à côté de la gare Lille-Flandre, où se trouve l'exposition Les Vivants, et je suis en compagnie de Bruce Albert. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'IRD, vous êtes commissaire de cette exposition, et vous travaillez depuis, on va le voir, de très nombreuses années auprès des Yanomami du Brésil.
Exactement.
Alors, cette exposition, elle est organisée par la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Qu'est-ce qui nous raconte ces vivants, exactement?
Ça nous raconte une expérience du regard justement sur les vivants bien différente que celle que nous avons habituellement dans les sociétés amérindiennes. Tous les vivants sont mis sur le même plan. Les humains, les animaux, les plantes sont doués de subjectivité, d'intentionnalité et de sensibilité équivalente à celle des humains. Alors que chez nous, c'est exactement l'inverse. Il y a une hiérarchie extrêmement rigide avec les humains au sommet de la pyramide et les autres en bas. Et ça a été un peu la racine de toutes les destructions qui ont lieu de tous les milieux naturels. Cette suprématie humaine qui a relégué les autres vivants dans le domaine de la nature, un domaine subalterne dans lequel on peut puiser des ressources et tout détruire en toute impunité.
Donc l'idée, c'est que l'art bouleverse totalement cette hiérarchie là, que vous décrivez.
Oui, c'est que l'art essaie d'apporter une idée issue de la philosophie amérindienne pour en faire un sujet de réflexion dans une période où on a bien besoin de trouver une nouvelle forme de cohabitation entre les humains et les autres êtres vivants.
Ouais. Et alors cet espace, le Tripostal, c'est aussi un lieu de cohabitation pour différents artistes qui viennent vraiment de très nombreux pays, de France, mais évidemment beaucoup d'ailleurs. Il y a 250 œuvres ici, dans ce lieu exceptionnel. Hein, il y a trois plateaux, c'est un endroit gigantesque qui permet aussi de faire vraiment des présentations. Là, il faut nous décrire la salle dans laquelle nous sommes. Il y a ces dessins justement qui sont présentés d'une manière tout à fait particulière. Hein.
Oui, c'est un peu sur le modèle d'une maison collective Yanomami. C'est deux cercles de dessins suspendus dans les airs, donc qui donnent un côté aérien et beaucoup plus léger, qui permet de slalom entre les dessins. Enfin,
on est presque dans une hutte au fond, hein, dans une maison accueille.
C'était de partir de la structure d'une maison Yanomami pour qu'on puisse les voir comme si on était dans cette maison et qu'on voyait la forêt, les chamans autour de nous.
Qui sont les Yanomami alors?
Les Yanomami, c'est un peuple amérindien de chasseurs, horticulteurs et collecteurs qui se trouve dans le nord de l'Amazonie brésilienne et dans le sud de l'Amazonie vénézuélienne. Ils sont près de 40 000 entre les deux pays, 28 000 au Brésil. Et au Brésil, ils occupent un territoire qui est à peu près l'équivalent du Portugal, un peu plus. Ça représente 1,5% de la forêt tropicale de la planète, le territoire Yanomami du Brésil.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a emmené vers ce peuple au départ, dans les années 70?
Moi, j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, j'avais lu beaucoup d'anthropologie, Lévi-Strauss, et bon, le romantisme de l'Amérique du Sud, des Indiens, à cet âge, m'a poussé à aller là-bas. Et j'avais un intérêt aussi pour les causes humanitaires à l'époque. Donc j'ai trouvé cet endroit, les Yanomami, où je pouvais faire des recherches anthropologiques. Mais les Yanomami subissaient déjà l'invasion de projets de développement. Et j'ai trouvé une place là où je pouvais à la fois m'engager auprès d'eux, les aider et faire ces recherches anthropologiques.
Ouais. Il y a un artiste en particulier, Yanomami, qui est présent ici. On va faire sa connaissance dans un instant. Juste un mot encore sur l'art. Est-ce que dans les années 70, quand vous êtes allé justement au Brésil, l'art existait déjà et représentait déjà cette notion de destruction du vivant, ou est-ce qu'on est un peu tôt finalement dans cette histoire ?
Non, à l'époque où j'ai connu les Yanomami, ils étaient extrêmement isolés. Il n'y a aucune manifestation graphique d'aucune sorte, sauf les peintures corporelles, les peintures sur les paniers, etc. Donc c'est peu à peu, en étant confronté à des images occidentales, qu'ils ont commencé à essayer de les utiliser pour présenter leur propre tradition au monde extérieur. Donc ils ont appris à servir papier, dessin, etc. Et ils ont un peu phagocyté le mode de représentation occidentale pour transmettre leur tradition à la fois aux blancs qui ne la connaissent pas et parfois aux plus jeunes d'entre eux qui ne la connaissent pas non plus.
Alors c'est un peuple qui subit la destruction de sa forêt au quotidien aujourd'hui, une richesse qui est pillée vraiment là sous nos yeux. Il y a ce travail pour les artistes du Brésil aujourd'hui qui est particulièrement compliqué, évidemment avec Bolsonaro. Il faut dire un mot de cet artiste qui expose juste derrière le mur où on se trouve, qui est Jaderes Bell, et qui exprime justement, qui témoigne de cette difficulté au fond pour les artistes aujourd'hui.
Jaderes Bell, c'est un artiste amérindien aussi, des Macuxi du nord du Brésil, mais qui est aussi autant un artiste qu'un activiste. Comme il disait lui-même, il se définissait comme un activiste. Il est très très engagé dans la lutte des peuples amérindiens, d'une part, mais aussi dans l'expression artistique des peuples amérindiens. Il avait ouvert une galerie, exposé tous des artistes de différentes ethnies, et en lutte contre ce moment politique particulièrement adverse, non seulement pour l'ensemble de la population brésilienne qui a perdu presque 700 000 personnes de Covid à cause d'une présidence Bolsonaro complètement démente.
Et il a subi beaucoup de pression lui-même en tant qu'artiste.
Oui, bien entendu, puisqu'il était vraiment le fer de lance de cette lutte des peuples indigènes, qui sont accablés de toutes les façons possibles en ce moment, puisque la présidence de la République de Bolsonaro incite les chercheurs d'or à rentrer dans les forêts, couper du bois, exploiter un maximum toutes les ressources. Donc c'est le pire moment. Je connais l'Amazonie depuis 47 ans, et c'est le pire moment possible en ce moment pour les Indiens et la forêt.
Et Jaderes Bell s'est donné la mort en novembre dernier, alors même qu'il préparait l'exposition qu'on est en train de voir aujourd'hui, à l'âge de 41 ans.
Exactement, non, c'est une perte immense par ce rôle qu'il avait fondamental et dans l'art indigène, dans l'art contemporain d'une façon générale, et son activité politique.
Alors c'est aussi un événement au cœur d'Utopia ici, donc à Lille, la présence des artistes et en particulier Chero Anaoué Akiiwe. Bonjour à vous, on est très heureux de pouvoir discuter avec vous, vous qui êtes justement un artiste Yanomami du Venezuela. Plusieurs de vos œuvres sont exposées ici au Tripostal à Lille. On est justement devant l'un des murs où on peut voir vos travaux. Vous êtes exposé dans le monde entier, à la Biennale de Sydney, à celle de Venise. Où vivez-vous la plupart du temps, Chero Anaoué? Dans des vives.
Buenos días a
buenos días.
Bonjour. A todos, y estoy aquí
en
Vives, y estoy invitado especialmente
dans l'expo vivant, et je suis invité. Je suis vénézuélien, je suis l'Indien Yanomami, et là, je voyage en ce moment dans beaucoup de pays, et ce qui me permet de les connaître.
Et
je suis également très fier que mes œuvres soient présentées dans cette exposition. Et on présente à l'exposition des œuvres que j'ai faites il y a un certain temps. Et à Caracas, il y a une galerie qui s'appelle Abra, qui effectivement m'a permis ou a ouvert la voie pour que mon travail puisse voyager et pour que des choses comme cette exposition puissent se produire. Et vraiment, vraiment, je remercie beaucoup les gens qui ont organisé. Je suis très fière d'être présent et pour que les gens puissent voir mon travail, mes œuvres et toutes les œuvres qu'on peut voir dans l'exposition sont des œuvres en fait hein, qui ont à voir avec le corps, c'est-à-dire que ce ne sont pas des œuvres, ce ne sont pas des motifs qui ont été inventés, ce sont des motifs en fait hein, qui normalement sont utilisés pour les peintures corporelles.
Alors ce sont des peintures abstraites, on en voit derrière vous ici, qui s'inspirent du monde forestier justement dans lequel vous vivez au Venezuela avec tous ses habitants. Alors on peut voir plein de détails, des pattes de grenouille, des motifs de la gorge d'un toucan, des traces de porcs sauvages dans la forêt. Tout ça, c'est votre environnement familier et vous voulez le traduire dans ces dessins, dans ces peintures.
Todo eso que se... Que se ve en todo.
Et tout ce qu'on peut voir, et effectivement,
sont de pinta de todo cuerpo.
C'est des choses en fait qu'on retrouve en tant que peinture corporelle quand on fait des célébrations, des fêtes. Quand on célèbre la fête des morts ou les enterrements, on peint les corps. Et là où je vis, il y a beaucoup d'insectes, en fait, parce que c'est une zone qui est très, très grande. Et tout ce que j'ai vu, effectivement, on le retrouve dans mon travail qui est présenté ici.
Et nous avons...
De cette manière-là, ça permet de ne pas oublier en fait les motifs de notre peinture traditionnelle, hein, parce que on veut pas en fait que notre culture se perde, parce que notre manière de vivre est très courageuse dans un environnement difficile, et on veut continuer à vivre comme ça, hein, et on ne veut pas, bien sûr, souffrir d'autres choses. On veut être comme tout le monde. Bien, heureux, et comme toutes les autres personnes, on pense qu'on a droit aussi à un bonheur comme personne et comme humain.
Et les artistes comme vous ont un rôle extrêmement important à jouer justement pour faire prendre conscience au public occidental de la réalité aussi de cette forêt, du vivant qui vous entoure et des menaces qui pèsent évidemment sur cette nature. Merci beaucoup à vous, Shiro Hanawe Akiwe. Merci à vous, Pascal Fougère, pour la traduction de cet entretien. Bruce Albert, on va se dire au revoir également. On peut lire votre ouvrage Yanomami, l'esprit de la forêt. C'est aux éditions Actes Sud. Et puis l'exposition donc Les Vivants est présentée ici au Tripostal à Lille. Et c'est également d'ailleurs ici, amis auditeurs de France Inter, que vous pourrez assister tout à l'heure à 17h à l'enregistrement de l'émission On va déguster de François-Régis Gaudry. Donc venez nombreux tout à l'heure. Camille, on va se retrouver donc dans un instant à la gare Saint-Sauveur. Tout va bien pour vous ?
Tout va très très bien. On est en train de se diriger vers d'autres œuvres. Je viens de tomber, Mathieu, sur une pompe à essence fossilisée, pétrifiée. Voilà, c'est assez sympa.
Prenez une photo, ça nous intéresse. En attendant, moi je file à la vieille bourse de Lille où m'attend l'artiste Ghislain Bertolon et on se retrouve après Youssoufa et Amapiano sur France Inter. Gracias mucho. Adios.
De la nouvelle école et de l'ancienne, on cogne et on foque ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mots mais mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente? Et qui sera là si je déchante? Comme disait Duxaga, la légende. Les gens n'aiment pas les gens mais aiment l'argent des gens. Ghetto à Place Vendôme, négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Amapiano. Amapiano. Je regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour je rappe dur dans le métro, demain autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y'a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là je me confie. J'écoute plus mes boucles, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à place Vendôme, négro Rolls-Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Arma piano.
Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Et si vous nous retrouvez dans la Terre au carré, nous sommes en direct de Lille à l'occasion de la 6e édition d'Utopia et je me dirige au pas de course vers la vieille bourse par la rue Federbe où se trouvent les géants de mousse. On les a vus hier, Camille, hein.
Ces oui, œuvres
de l'artiste Kim Simonson.
Ouais,
ça représente donc des figures tout droit sorties, ouais, des contes nordiques et qui vivent en harmonie avec le monde végétal. Allez, en attendant
allez,
d'y aller,
tracer, Camille Cronier,
on
moi,
retrouve à la gare Saint-Sauveur.
Ouais. Oui, d'autant que je viens de tomber sur... Enfin, je viens de tomber, non, c'est complètement préparé, mais je suis avec Alice Audouin. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes co-commissaire de cette exposition. Donc je le disais dans le sommaire, le nom de cette expo, c'est Nova Scène. Alors Scène, ça s'écrit C-E-N-E. Qu'est-ce que ça veut dire, Nova Scène?
Nova Scène qui se termine un peu comme Anthropocène, et c'est justement l'ère qui va suivre l'Anthropocène selon James Lovelock. Vous savez, ce fameux scientifique environnementaliste anglais, désormais centenaire, qui avait écrit il y a 50 ans l'hypothèse Gaïa. Et ben, 50 ans après, il a une nouvelle vision, c'est que l'Anthropocène aura une fin et il y aura une relation plus positive avec le vivant à l'ère du Novacène. Donc c'est un point de vue un petit peu optimiste sur le fait qu'on va réussir à se sortir de notre impasse actuelle.
Il dit quand même, enfin en tout cas dans la théorie, c'est que c'est grâce à la technologie. Hein.
Alors,
ça veut dire que c'est une exposition technophile.
Alors, c'est vrai que lui pense que les technologies vont jouer un rôle important dans la prochaine ère, notamment l'intelligence artificielle. Nous, on pense que bien sûr, l'énergie et la technologie est aussi ce qui a déterminé l'Anthropocène et jouera un rôle dans le Novacène, mais ce n'est pas du tout une exposition technophile. Elle vise plutôt à réfléchir sur le rôle de la technologie et à l'heure de l'Anthropocène et pour le Novacène, pour au contraire leur donner des finalités qui aillent dans un sens un peu plus écologique.
Oui, parce qu'elle est faite aussi pour nous interroger. Là, on passe juste à côté du crâne, du squelette enterré avec un crâne plein de puces électroniques dont je parlais. L'idée, c'est vraiment de nous renvoyer à notre propre responsabilité vis-à-vis
de ces technologies. Ah oui, alors là, vous êtes dans Trace d'un monde fossile qui est la manière dont on pourrait regarder depuis le Novacène notre époque actuelle. Et c'est vrai qu'elle n'est pas jojo, que, voilà, si vous me permettez. Mettez l'expression, dans la mesure où les énergies carbone, fossiles ont été très très destructrices.
En un mot, vous êtes aussi Alice Audouin, présidente de l'association Art of Change 2021, donc vous travaillez sur le lien 21. Vous travaillez entre le lien entre art et environnement. C'est important qu'il y ait justement ce pont entre les deux.
Ah ben ça fait 20 ans que je me consacre à cela. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que vous le voyez dans cette exposition, à la fois des artistes de référence pionniers sur le sujet, mais aussi toute une nouvelle génération. Vous avez interviewé Fabien, Léostic, une nouvelle génération qui est née avec la crise écologique et qui, pour elle, s'en empare avec un nouveau regard.
Allez, on avance avec Alice. Parce qu'on est en train d'arriver ici devant une nouvelle œuvre. Alors c'est assez monumental. Un bateau, alors c'est pas du tout un bateau miniature ni un bateau en photo, c'est un vrai bateau, 7 mètres de long. Bonjour, avec les deux créateurs devant, Lucie et Jorge Horta.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous allez entendre deux accents. Jorge, vous êtes argentin.
Exact.
Lucie, vous êtes anglaise. C'est donc vous qui avez créé ce Zille Boat, on dit ça comme ça. Zille, ça veut dire quoi, tiens?
Zélé, c'est le nom, c'est le type de ce bateau. C'est un bateau allongé, très plat. Et en fait, c'est originaire des montagnes. C'est la spécificité, c'est de pouvoir naviguer des lacs avec des profondeurs très
basses. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'il y a à bord de ce bateau, Jorge Horta?
Oui, en fait, c'est une sculpture qu'on a souhaité la amener à la limite de la fonctionnalité. C'est-à-dire, la mesure qui traite un projet majeur, que c'est la problématique de l'eau dans le monde, que nous avons démarré, ça fait une trentaine d'années déjà. Et on a voulu montrer, à travers une vraie machine de potabilisation d'eau, et en faisant des expériences de purification de différents canaux et différents sites pollués, qu'une sculpture peut être fonctionnelle, mais en même temps poétique.
C'est ça, Lucie, c'est-à-dire ça, c'est un bateau dépolluant. Donc, y a à bord, il y a quoi? Il y a plein de tuyaux.
Oui, on voit des filtres pour filtrer. Il y a de l'osmose pour l'eau salée, d'autres pour filtrer les impuretés dans différents types d'eau.
Beaucoup de bidons de plastique aussi.
Oui, des récipients pour transporter de l'eau. Certains sont on appelle ça des récipients plutôt poétiques et d'autres plus fonctionnels, justement pour, comme Jorge disait, être entre ces frontières, les limites de la fonctionnalité et la poésie.
Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. C'est œuvre d'art, solution concrète, c'est entre les deux. L'idée, c'est quoi? C'est le message derrière lié à l'eau. Aujourd'hui, par exemple, en France et ailleurs d'ailleurs, on parle énormément de sécheresse.
Voilà, nous avons choisi, depuis que je connais Lucie, depuis déjà plus de 30 ans, de travailler sur les grands enjeux de société. Et dans ces cas-là, on a pris le pari de travailler collectivement avec la communauté scientifique, avec des étudiants, des universités, toutes sortes de populations à travers le monde. Ce n'est pas juste une sculpture, c'est le résultat d'un long processus de réflexion collectivement pour aborder des projets majeurs.
Et quel message, du coup, il y a derrière ce bateau-là? Quand on arrive, on se dit, c'est impressionnant, hein. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il nous envoie comme message, Lucie?
Bon, c'est pour transporter à la fois une machine qui fonctionne, pour dépolluer des sources sales, de l'eau très sale.
Le message derrière le bateau, c'est quoi? C'est nous renvoyer quelque part à la pénurie d'eau, à la rareté de l'eau dont on parle beaucoup de plus en plus.
Oui, il y a ces deux paradoxes parce qu'il y a de la pénurie mais aussi de l'excès de l'eau. Donc nos projets Horta Water, la purification, la distribution, amener de l'eau à des populations qui en ont besoin, mais aussi enlever de l'eau pour ceux qui en ont trop. C'est tout dans ces projets.
C'est-à-dire que notre travail, c'est comme on travaille au début d'un gros problématique mondial. Aujourd'hui, évidemment, l'eau s'est complètement diffusée à travers le monde comme un des gros problèmes. Mais si on se remonte à l'origine de cette pièce, notre travail, c'est de signaler des choses qui vont arriver.
D'ailleurs, il y a des équipements de survie, je crois, à bord de votre bateau. C'est quoi? C'est aussi pour dire, attention, on n'est pas sauvé.
On travaille depuis aussi 30 ans sur les problèmes de déplacement forcé des populations. Et dans ce projet, parallèle à celle-ci, qui d'ici en ce moment se croise, on va trouver ces populations indésirables, entre guillemets, qui se promènent à travers le monde. Aujourd'hui, sont 60 millions de personnes réfugiées dans des camps. Bon, ça fait référence à ça. Il y a un des problèmes majeurs, c'est le changement climatique, la pénurie d'eau, etc., qui fait que ces populations sont forcées à l'exil.
Et ce qui vous intéresse, donc, c'est l'interdépendance entre toutes ces questions, hein, sociétales, environnementales, biodiversité, climat.
Absolument,
Lucie Horta.
On ne peut plus les séparer. C'est complètement indissociable.
Et c'est ça qui construit tout votre projet artistique.
Oui, on espère, à travers l'œuvre, qu'on voit l'être humain ici intégré dans la structure de cette machine de potabilisation. Effectivement, on voyez cette question à nos audiences.
Merci beaucoup, Lucie et Jorge Horta. Donc, je sais pas si j'ai un bon accent pour dire Jorge.
C'est parfait.
Ah, super. Allez, je me dirige vers une autre œuvre. Alors, c'est un chien d'un nouveau genre. Je suis pas sûre qu'il plaise à tout le monde, mais il laissera personne indifférent. Je vous en parle tout à l'heure, Mathieu.
Oui Camille, ça y est, on a fait notre petit running. Là, on a descendu la rue Faidherbe au pas de course. On est donc ici à droite, on a l'opéra. Voilà, à gauche, on a le célèbre hôtel Carton et juste à ma gauche, la vieille bourse pour parler avec Ghislain Berthelon dans un instant d'une œuvre qu'il expose ici. Et ce sera juste après les Rita Mitsouko, communiqué d'amour sur France Inter et nous sommes à Lille.
esprit toujours là. Il te juge, te suit, s'échapper de ses à la vie, à la mort, s'échapper. Ou alors, cet amour, c'est comme ta vie, dans le besoin, l'urgence du construit. Cherche encore.
Nous sommes en direct de Lille pour l'événement culturel Utopia et j'arrive donc à l'instant dans la vieille bourse de Lille. Waouh ! Quel bâtiment incroyable ! Bâtiment du XVIIe siècle. Alors là, Jean, il y a des bouquinistes absolument partout. C'est un cloître, en réalité, dans lequel on pénètre. Très, très beau bâtiment. Et j'aperçois au loin Ghislain Berthelon. Bonjour Ghislain.
Bonjour Mathieu.
Ça va bien.
Bonjour.
Mais quel endroit incroyable.
Quel endroit exceptionnel.
Et vous avez la chance d'avoir votre œuvre qui est là au centre du cloître.
Exactement, dans cet espace incroyable où j'ai pu produire cette pièce spécialement pour cet espace-là, en fonction de... Je l'ai dimensionné par rapport à ce patio incroyable qui est comme un petit abri au cœur de la ville.
C'est vrai.
Et qui, je me suis renseigné, hein, j'ai fait mes devoirs avant, qui a été construit au 17e.
Ouais, moi aussi. On a regardé la fiche Wikipédia juste avant. Donc il fallait avoir des infos. En tout cas, il y a votre œuvre Resiliencia, qui est ici. Alors, il faut nous la décrire pour les auditeurs, évidemment, qui ne la voient pas. On mettra les photos tout à l'heure sur les comptes de l'émission.
Alors, formellement, c'est une sculpture entièrement en bronze.
Ouais.
Et formellement, c'est une souche calcinée dans laquelle est plantée une hache. Et le manche de cette hache reprend vie avec des feuilles en or. Donc, on a la souche qui est en imitation de bois calciné, le manche qui est d'abord brûlé, puis qui reprend vie grâce à des feuilles en or.
Ouais.
Des feuilles, tout est en bronze, mais on a doré, disons.
Donc ce nom, évidemment, Resiliencia, qu'on comprend, puisqu'effectivement, il y a cette souche calcinée et la vie qui reprend, c'est le message de cette œuvre.
C'est ça, c'est le message de cette œuvre qui est née, la genèse de l'œuvre est tout autre dans la mesure où elle est née vraiment d'événements qui m'ont touché. C'était les grands incendies qu'il y a eu, qui ont ravagé le continent australien. Vous vous en souvenez tous. D'abord en 2009, puis en 2019. Et j'avais prévu de réaliser cette pièce bien avant, mais je l'avais pas fait en 2009. En 2019.
Il paraît que vous aviez dessiné des choses dont vous ne souveniez plus.
Exactement.
C'est vrai.
J'ai dessiné cette pièce en 2009 parce que j'avais été bouleversé par les premiers incendies sur le continent australien. Et puis, je l'ai oublié, ce dessin, je l'ai oublié. Et en 2019, lorsque sont intervenus à nouveau des grands, grands incendies qui ont complètement ravagé ce continent, eh bien, j'ai redessiné Resiliencia. Et cette fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le confinement.
C'est ça.
Et donc, je me suis retrouvé à l'atelier bloqué et j'ai pu réaliser la pièce.
Alors, Ghislain, il y a plein de gens qui sont là puisque c'est vraiment un lieu de passage pour le public. Alors, il y a madame qui est là avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous?
Daniel.
Bonjour, Daniel. Vous êtes lilloise?
Oui, tout à fait.
Vous êtes avec votre maman?
Oui,
voilà.
Oui.
Alors, je vous voyais observer attentivement cette œuvre. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, sincèrement, dites-nous franchement ce qu'elle...
La nature, alors, qui peut être aussi un petit peu attaqué par les couleurs un petit peu sombres.
Oui.
Et puis, on tourne un petit personnage, peut-être dans le tronc, c'est possible.
Oui.
Mais, effectivement, moi, c'est une référence à la nature. Peut-être aussi une nature un peu attaquée,
attaquée,
dirais.
Ouais. Voilà. Bon, alors voici, je vous présente l'artiste, quand même.
Enchanté.
Voilà, Ghislain Berthelon qui l'a réalisé. Donc, en fait, voilà, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y a vraiment cet esprit de la vie qui reprend, malgré le feu, des flammes.
Cette souche
calcinée. Et ensuite, voilà.
Oh bah c'est quand même un bel événement, les 3000. Hein.
Exactement. C'est bien, vous n'êtes pas attaché de presse de l'événement, mais vous en faites bien la pub.
Je suis parti de la parade demain, donc...
Très bien.
Tout le monde est impliqué dans cette ville.
Merci en tout cas, bonne balade à
merci,
vous.
Merci madame.
Ghislain, oui, il y a ce travail que vous faites vous, depuis assez longtemps sur la domination finalement que nous exerçons sur la nature. Hein, et c'est ce qui ressort évidemment avec cette hache plantée dans cette souche.
Exactement, avec, comme j'aime à me définir, un regard désespérément optimiste, parce que j'ai envie d'y croire, parce que j'ai deux enfants, parce que je crois qu'il existe des solutions. Et d'ailleurs, l'émission d'hier, que je me suis permis de réécouter en podcast, je suis un fidèle auditeur.
Ouais.
Et c'était très bien ce que Bretagnol a expliqué.
Ouais.
C'était très bien parce qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de gestes naïfs. Oui, oui, je pense qu'il faut se reconnecter à la nature. Et oui, connaître les arbres. Et oui, connaître le nom des oiseaux ou le chant des oiseaux, comme il l'expliquait. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas. C'est ce qui nous permet de connaître. Et voilà ce que je dis toujours, on protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. On va pas. Il faut à tout prix se réancrer. Mmh. J'ai trouvé très belle et très juste cette émission. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, je trouve que l'angle que vous avez avec cette émission, moi, me fait énormément de bien. D'abord, je l'écoute tous les jours, et quand je ne peux pas un podcast, parce que ça m'apporte ce petit rayon de soleil. C'est-à-dire que oui, c'est dur ce qu'on évoque, mais... On cherche des solutions.
Mais on n'a que des bons attachés de presse aujourd'hui.
Pourtant,
on les a pas payés. Merci Ghislain Berthelon, Resiliencia, donc ici dans la vieille bourse de Lille.
Voilà. Je me permets juste de dire qu'il y a une exposition, d'autres œuvres qui répondent aussi au serpent. L'exposition s'appelle Le Serpent Cosmique.
Absolument.
C'est au musée de l'Hospice Comtesse.
Voilà. Merci beaucoup à vous. Et on retrouve Camille avec ses derniers invités à la gare Saint-Sauveur. Merci.
Oui, et je suis devant Canis Novacenus. Alors Canis Novacenus, c'est pas l'artiste, c'est l'œuvre. Les artistes, ce sont Marion Laval-Janté et Benoît Mangin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes, vous travaillez ensemble, vous êtes un duo connu comme art orienté objet, ça c'est le nom que vous utilisez. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Canis, là, qui est devant nous? C'est un chien du futur.
C'est en fait très exactement un squelette de chien redressé qui est monté sur des lames de course, donc qui sont les prothèses avec lesquelles les coureurs handicapés arrivent à faire des performances extraordinaires. Et à côté de lui, il y a une espèce de niche futuriste et design qui est cernée de néon, voilà,
pourquoi,
si on veut le résumer.
Pourquoi le chien est debout et avec des prothèses, hein? C'est quoi? C'est de l'humour? C'est de la provocation? C'est rien à voir avec un caniche, hein? En plus c'est un squelette, donc...
Oui, 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 c'est un montagne des Pyrénées, c'est un grand chien. L'idée, c'est de s'approcher de la vision de l'humain et que d'une certaine manière, en le voyant, on ait même des doutes sur le fait que ce soit un chien. Ça se veut effectivement à la fois humoristique et c'est ce qu'on pourrait appeler de l'archéofuturisme, c'est-à-dire que on est en train de voir des vestiges remonter comme si on était dans le futur et qu'on voyait quelque chose qui en fait n'a pas encore eu lieu. Donc c'est une espèce de projection futuriste qui est à la fois humoristique et inquiétante.
Oui, parce que j'allais vous demander, c'est plutôt positif ou optimiste, pessimiste cette projection futuriste là ? On est censé se sentir comment ?
Bon, il faut quand même voir que ce chien, il est très sympathique parce qu'il nous sourit, ouais. Il lève la patte.
Il lève la patte en mode
comme,
salut.
Voilà, en mode salut, comme l'homme sur le dessin de la sonde pionnière. Et d'une certaine manière, il a l'air de venir vers nous avec amicalité, exactement avec amitié, comme ce qu'il est, le meilleur ami de l'homme, ou ce qu'il fut, puisqu'on ne sait pas si l'homme est encore présent dans son histoire.
Et alors justement, Benoît Mongin, l'idée c'est aussi quelque part d'interroger sur le monde qu'on va laisser aux animaux.
Oui, mais on a fait exprès en fait de ne pas situer véritablement ce chien redressé ni dans l'espace ni dans le temps, pour émettre en fait l'hypothèse d'une vie qui et d'une évolution surtout de type darwinien qui aurait pu être parallèle à la nôtre. Du reste, la niche effectivement n'a pas de fond, ce qui fait qu'on peut la voir en fait beaucoup plus comme une sorte de porte. Une porte de l'espace, une porte d'un temps dans une physique qui serait en fait quantique, comme s'il sortait d'un trou de verre ou quelque chose comme ça. Et effectivement, on ne sait pas s'il survit à notre humanité ou s'il est le fruit qui vient nous saluer d'une évolution différente.
Marion Laval-Janté, qu'est-ce que vous faites dans cette exposition finalement ? Parce que je crois que vous n'êtes pas très technophile, vous. Vous n'êtes pas trop à vous dire c'est la technologie qui va nous sauver.
Bah, tant mieux si la technologie nous aide, mais disons que jusqu'à présent, elle a montré surtout un caractère très dépensier sur le plan des ressources terrestres, donc elle pose quand même énormément de questions. Et nous, on a une foi très importante dans tout ce qui est le vivant, tout simplement. Et la technologie, elle est souvent finalement confrontée à la difficulté. Elle confronte le vivant à une grande difficulté, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec...
Vous parlez de délire technologique quand même, hein ?
Oui, parce que je dirais l'intérêt de la technologie, c'est que c'est un lieu d'inventivité pour l'homme. Donc, finalement, pour le délire aussi, mais derrière ce délire, il y a des caractères optimistes et des caractères très inquiétants. Donc, je dirais, l'œuvre contient cette ambivalence.
Une dernière question, parce que ça ne laisse pas indifférent. Vous, Marion Laval-Janté, vous vous êtes déjà, pour l'art, injecté du sang de cheval. C'est quoi l'idée derrière ? C'est d'interpeller, de choquer de...
Non, c'était d'expérimenter l'altérité. Voir si on pouvait... ça fonctionne, c'est intéressant.
Vous vous êtes senti comment avec du sang de cheval dans les veines ?
Momentanément, moins primate.
Bon, je vais rester là-dessus, Mathieu. Je pense que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup.
On va méditer pendant le week-end. Merci beaucoup Utopia, c'est donc jusque 2 octobre prochain à Lille avec évidemment beaucoup de choses à voir dans toute la métropole lilloise, beaucoup de rencontres à faire avec les artistes. Tout le programme est disponible sur utopialille3000.com, il est en lien évidemment sur La Terre au Carré. Et puis n'oubliez pas de passer au Tripostal à 17h pour l'enregistrement dont on va déguster avec François-Régis Gaudry ici à Lille. Passez un excellent week-end, lundi on va se retrouver autour de ce trou noir, de cette image, la première image du trou noir de notre Voie lactée, Sagittarius A étoile. Émission spéciale donc lundi. Bon week-end.